Salut à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio MDM Electric Troubles Radio Show qui bouge au micro comme tous les mercredis soirs. Encore une fois, une interview prévue aujourd'hui. Il s'agit d'un groupe dont je ne connais pas la prononciation du nom. En fait, est-ce que c'est Pervita ? Est-ce que c'est Pervitine ? En tout cas, on le demandera tout à l'heure à notre interviewé. Ce que vous devez savoir, c'est que le disque est super bien, c'est un 4 titres et c'est pour ça qu'ils seront à l'antenne tout à l'heure. On va commencer Electric Troubles par une interview, n'importe quoi, pas un bon morceau, The Laurie Strobes Brothers. Voilà, c'est sorti sur un label, enfin plusieurs labels, mais je crois qu'il y a Primator Crew, je bafouille beaucoup aujourd'hui, ça commence bien. Il y a aussi Bourpif Records, etc. Donc j'ai reçu 3 vinyles tout récemment et voilà, j'avais envie d'en diffuser un premier extrait, un premier morceau. C'est parti, Electric Troubles Radio Show.
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Donc un premier morceau dans Electric Troubles, il s'agissait donc de The Laurie Strode's Brothers, voilà, je l'ai dit mieux que tout à l'heure, j'avais confondu un B avec un D, voilà, ça le fait pas du tout. Groupe marseillais, donc Rocksteady, c'était le titre du morceau que nous écoutions à l'instant. Nous sommes donc au téléphone, comme promis, avec, ça y est maintenant je le sais, Pervitine et donc Fred au téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Donc on va parler de ce groupe, de ce disque qui est sorti il y a quelque temps. et que j'ai découvert, donc qui est sorti en format vinyle et digital, si je me rappelle bien. Alors, je voudrais, s'il te plaît, que tu me racontes l'histoire de Per Wittin. Qui est qui fait quoi et depuis quand?
Alors, Per Wittin, c'est depuis 2018. Alors, ça se prononce bien Per Wittin, parce que c'est la fameuse drogue des nazis. Donc c'est à l'allemande et elle était aussi disponible en France dans les années 50 et c'était avec un E, donc on a choisi à l'allemande.
D'accord.
Et on s'est formé en 2018, c'était pas prévu, je venais d'arrêter un groupe et puis j'avais pas l'intention de refaire de musique et ce sont les copains de Teenage Hate Records qui m'ont proposé la première partie des Oblivians à l'époque. Alors je leur ai répondu poliment que je n'avais plus de groupe et ils m'ont dit qu'il fallait que je me débrouille, que j'en monte un, pour faire cette première partie. Et c'est vrai que les Oblivians, ça se refuse pas de partager l'éloge avec eux. Donc j'ai appelé mon vieux copain, mon vieil ami Jège, qui lui était dans les surfing matadors à l'époque. Et puis, je lui ai dit, allez, on se fait un hold-up, on reprend nos vieux morceaux de nos groupes respectifs, et puis on fait la première des Oblivians. C'était prévu comme ça. Et puis, le concert n'a pas eu lieu, mais par contre, nous, on avait commencé les répètes, et on était, ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas joué ensemble, et dès les premières notes, ça a été grande classe entre nous, on était contents de se revoir, On a continué comme ça et c'est Jège qui a recruté Pierre, le batteur de X-Ray Vision, Highlight, etc. Donc on a attaqué comme ça avec un jeune bassiste qui a fait les premiers mois avec nous. Et Tom Galdenao qui maintenant a un groupe dont j'ai oublié le nom, les Smoking Pistols, voilà. Un groupe de cré, et puis, il n'y a pas eu le concert. On a fait, pour le coup, pour se faire pardonner, ils nous ont calé dans un petit club à Lyon, et puis il y a eu des bons retours, et puis nous, on était ravis d'être ensemble. Le bassiste est parti, on en a recruté un deuxième, un copain, qui est parti aussi, et puis là, on a la monture finale, j'espère, avec Raoul, un gars du coin de Valence, et avec qui ça se passe super bien. Et puis, il a un peu fermé le cercle comme ça par sa présence. Et aussi bien amicalement que musicalement, là ça prend des tours, donc on est super content. Ouais.
D'accord.
On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de concerts
parce
qu'il s'est passé ce qu'on sait. Et puis voilà.
Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer un premier morceau. Donc Répétitive Mécanisme. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur celui-là?
Non, rien de spécial. Les morceaux qu'on va écouter, ce sont des vieux morceaux que je trimballe depuis des années.
D'accord.
Et que j'ai enfin pu finaliser avec eux. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie d'entendre, ce que je les ai pas mal de fois enregistrés. Ils n'ont pas été pressés. Et là, pour le coup, c'est la version finale. C'est pour ça que sur le maxi, les quatre compos sont de moi. Alors que maintenant, tout le monde participe. Et il y a des compos de Jège aussi qui sont en route.
Ok. Mais on va se l'écouter et on se retrouve juste après. C'est parti. We'll be right back. Voilà, donc premier morceau de Pervitine, Repetitive Mechanism. Tu m'as dit qu'au départ, donc, vous aviez commencé à deux. C'était quoi, une formule acoustique sur laquelle vous étiez
parti?
Non,
non, non, c'est qu'on a commencé tous ensemble, mais c'est vraiment parti de c'est vraiment parti de GG et moi, où je lui ai dit, bon, j'ai l'impression d'avoir écumé tous les copains Zikos du coin, donc trouve un batteur, trouve un bassiste, et puis voilà, donc il s'est occupé de... Du recrutement.
Toi, tu jouais dans quel groupe avant? Parce que tu m'as dit que tu avais l'intention, tu voulais arrêter complètement, mais quel était le nom du groupe que tu avais avant?
Alors, il y a eu des débuts des années 2000, j'avais monté un petit label et j'avais produit le Tribute au Gun Club, le double LP, là, je sais pas si tu vois.
Oui, oui, oui.
Un double LP tout rouge, voilà, bah, c'est moi qui l'avais.
Dans le nom de ton label, c'était quoi déjà?
C'était Unrecording Records, un nom bien facile à retenir, bien intelligent, très marketing. et puis, suite aux ventes du double LP, j'ai pu produire les Surfing Matadors, le groupe de Gège, donc deux 45 tours, et un 45 tours de Elvis Corpse Revisited, donc ça c'était mon groupe avec le guitariste des Atomic Spuds.
D'accord.
Et puis ensuite j'ai sorti un 45 des Hulks et puis ça s'est arrêté. Et j'ai enchaîné sur un groupe qui s'appelait All In Mother. Donc on a joué dans la région lyonnaise, on n'a rien sorti du tout. Et puis j'ai terminé avec Girls Dorm. Pareil, on a joué dans le coin et on a enregistré, c'est dispo sur le SoundCloud. Mais on a rien pressé. Et puis voilà, vie perso, déménagement, etc. Donc le groupe s'est terminé de lui-même. Et puis voilà, j'avais pas la blase, mais bon, j'avais d'autres choses à faire. Et puis c'était devenu contraignant d'avoir un groupe. Il n'y avait plus le plaisir de ce que j'ai retrouvé en fait avec Pervitine, où les choses sont simples et circulent comme ça à travers les instruments et qu'on n'est pas obligé d'en parler pendant des heures.
Ok. Dis-moi, pourquoi ce nom de groupe d'ailleurs? Parce que c'est quand même... c'est quand même particulier, parce que moi, alors au départ, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, j'ai été voir sur Internet, effectivement, bon, c'est quand même lourd de sens.
C'est lourd de sens, oui. On comprend mieux comment ils ont envahi toute l'Europe.
Exactement.
Non, on avait monté le groupe, on n'avait pas encore de nom, et un soir, sur Arte, ils diffusent ce documentaire sur Hitler et ses drogues. Et comment il a drogué la population allemande bien avant son pétage de plomb, et comment le Blitzkrieg s'est fait, etc. Voilà, il y avait la population allemande qui était sous amphétamine, les ménagères qui pouvaient manger des carrés de chocolat avec cette amphétamine dedans. C'est vraiment c'est l'ancêtre, enfin c'est la base de la méthamphétamine, quoi. Et ces soldats étaient complètement camés et réclamaient cette drogue quand ils ne l'avaient plus. Ça a fait des gros dégâts, notamment j'ai oublié son nom, mais un ancien soldat SS qui est devenu prix Nobel de littérature par la suite, qui avait écrit un courrier à ses parents qui est très touchant. Ou à la fin du courrier, il demande à ses parents de lui envoyer de la pervitine, quoi.
Oui.
Voilà. Okay. Et puis, de ça, les Américains ont bien étudié les effets secondaires de cette drogue, et ce qui leur a permis, eux, ensuite de travailler sur le LSD et toutes ces saloperies. Oui. On avait aussi les Japonais et puis les Anglais, les aviateurs qui, eux, prenaient aussi de l'amphétamine pour pouvoir, faire des vols de plusieurs dizaines d'heures, quoi.
Ok. Alors, revenons au groupe. Est-ce que vous êtes acteur dans d'autres secteurs de la musique, ou est-ce que vous ne faites que le groupe? Enfin, bon, toi, tu m'as déjà parlé de label, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui bossent dans des salles de concert ou des... Ou...
Non, on n'a rien de tout ça. On a tous été acteurs à un moment donné, et puis voilà, on est un peu plus âgés, on a des enfants pour certains, etc. Une vie perso, donc on a un peu lâché ça, mais... Sur Lyon, à l'époque, oui, j'organisais des concerts à l'époque du label, etc. J'étais très dans la vague In The Red Records, Crypt, etc. Donc, on attrapait tous les groupes qui tournaient à ce moment-là, quoi.
D'accord.
On se calait en première partie avec les Surfing Matadors, etc. Donc voilà, ça nous faisait un peu vivre travers tout ça. Puis j'ai eu la chance comme ça de rencontrer Speedball Baby, Dead Moon, Dirt Bombs, etc. Jeffrey Evans, les Bass Souls, donc ça, tout ce que je vénérais à l'époque. Quoi.
D'accord. Quand vous avez lancé donc ce projet, est-ce que vous aviez une espèce de ligne directrice, voilà, pour commencer à bosser, ou est-ce que ça s'est fait comme ça petit à petit
Bah ça s'est fait. On aime les fuzz. Pardon. On aime voilà, on aime les Cramps, le Gun Club, les Stooges. Un peu d'anglais comme Wire ou des choses comme ça. Après, on a tous des goûts différents, mais on a quand même un centre d'intérêt sur, voilà, les guitares caverneuses avec des belles fuzz. Moi, j'ai beaucoup travaillé j'étais intermittent, j'ai beaucoup travaillé dans le backline, donc pendant un temps, j'achetais beaucoup de matériel. Et donc j'avais un petit kit de vieilles pédales fuzz, des amplis Vox, etc. Et le fond et le son, c'est fait de lui-même. On s'est branché, ça s'est mis à sonner. Et puis voilà. Bon, puisque ça devait être un projet éphémère, on n'a pas vraiment cherché. On a fait nos vieux morceaux qu'on a un peu réarrangés comme ça au fil du temps. Et puis le son a fait que ça a été cohérent tout de suite. Et puis on a adoré ça. Donc on s'est mis à composer. Et puis voilà.
D'accord. Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution entre ce que vous avez fait au départ et donc qui était un peu en lien avec ce que tu avais fait, toi, avais déjà travaillé avant, et ce que vous faites maintenant,
c'est pour ça on a hâte de pouvoir le présenter sur scène, parce que c'est pas le jour et la nuit, mais en effet c'est devenu plus agressif, plus abouti, des meilleurs arrangements, on va dire, sans se lancer des fleurs. Et puis il y a les compositions de Jej. Donc j'ai adoré ce qu'il a apporté. Ça m'a permis de souffler un peu. Il chante quelques morceaux. Ça m'a permis de souffler sur moi, la pression que je pouvais me mettre sur les compos, et puis l'impression de tourner en rond, parce que je suis pas du genre à aimer tout le temps ce que je fais. Notamment ma chanson préférée, c'est la sienne. Donc voilà, il y a nous deux. Et puis l'arrivée du bassiste, il apporte des idées sur les arrangements, etc. Le batteur Pierre s'exprime aussi. Voilà, c'est beaucoup plus un travail à quatre. Et oui, c'est plus agressif, plus rock'n'roll, plus bruyant, on va dire. Il y a beaucoup plus de fuzz encore. Et puis, on part sur, là, ces derniers temps, on part sur des balades, quoi. Voilà, des trucs plus calmes, plus sur l'ambiance, entre guillemets, à la Bad Seeds, ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, on se permet aussi des balades. Et puis... on essaie de faire beaucoup de bruit, quoi.
D'accord. Et quelle est la différence entre Jej et toi, justement?
La différence d'un point de vue compo, d'un point
ouais,
de
ouais,
vue...
Oui, bien sûr. Ouais.
Eh ben, lui, il a peut-être un côté plus... comment dire, un côté plus anglais, plus années 80. Moi, ça viendrait plus de ça viendrait plus. Moi, je suis beaucoup plus la musique d'Amérique du Nord et beaucoup plus blues. Donc les deux mélangés. Des fois, c'est des grosses bouses, et puis des fois, ça donne des trucs super intéressants, quoi.
D'accord. Et vous vous retrouvez sur quoi? Sur quel groupe en commun là?
S'il y en a. Un peu ce que j'ai dit. Parce que ouais, bien sûr, on aime énormément de choses, mais. C'est un peu ce qui a été cité dans les chroniques. C'est intéressant, c'est flatteur de voir qu'ils ont pu retrouver un peu le noyau qui nous regroupe un peu tous. Le rock australien, voilà, les scientists. On est fan de Celebratory Falls, voilà, des choses comme ça. Le batteur est un grand fan d'ACDC. Et puis moi, c'est la scène de New York, la fin des années 70, quoi. Donc Cramps, Ramones, voilà, tout même Talking Heads, de Richard L, des choses comme ça, les Stooges, bien sûr, comme tout le monde, la base. Niveau anglais, oui, Wire, on aime vraiment tous Wire. Et puis eux, après, ils sont plus pop anglaise, des choses comme ça qu'ils peuvent écouter que moi je bannis. Et puis moi je suis plus, après il y a des trucs plus peut-être country, des trucs comme ça comme Raining Sand ou tous les groupes de la bande des Oblivions que j'aime beaucoup aussi, les Country Teasers, le Gun Club, on vénère, voilà. D'accord. Après on essaie de pas trop plagier les Nomades, bien entendu. Et puis voilà, on essaie de pas trop plagier, mais on essaie de faire vivre ces fameux trois accords qui existent depuis les années 50 et, et de les mettre à notre sauce, quoi, et voir si ça marche. Visiblement, les concerts qu'on a fait, ça fonctionne. Donc c'est agréable de pouvoir envoyer des morceaux. On ne dira pas de qui on l'a pompé, mais oui, c'est à nous.
Ok. Dis-moi, je vois mixé par Piotr Skotniki et masterisé par Daniel. Alors, je n'arrive pas à prononcer le nom parce que je l'ai mal écrit, certainement à Londres.
Daniel Hussein.
Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui avez enregistré au préalable ?
On a enregistré avec Piotr.
D'accord.
Voilà, c'était l'idée d'une démo en fait, de faire une carte postale de ce qu'on faisait, de ce qu'on faisait au moment, à ce moment-là, et on a été bluffé par les premières prises de son, quoi. On s'est dit merde, ça sonne vraiment bien. Et Piotr, c'est un vieux copain, on avait travaillé avec lui parce qu'on était intermittent avec Gège. Et voilà, il a apporté sa patte, il nous a permis de d'écouter un peu techniquement comment il fallait que ça groove, comment un binaire devait tourner, comment un riff devait repartir, etc. Donc il nous a modifié deux trois petites choses comme ça finement pendant l'enregistrement, et on est arrivé à ce résultat. On a dit bon ben voilà, faut qu'on le sorte. Quand on avait joué au Troxon, donc à Lyon, et ben ils étaient partis pour nous faire un 45 tours, et les gars de Teenage aussi voulaient nous faire un 45. Et puis ben voilà, on est parti dans cette dynamique, quatre titres. Et puis quand tout a été terminé, ils n'avaient plus l'argent pour le faire, donc ça tombait un peu en eau de boudin. Le confinement tombait également le premier du mois de mars. Et puis c'est Pierre qui a insisté pour qu'on fasse écouter à Bruno de Dangerous Records, donc le magasin de disques de Lyon, et puis son label Dangerous Skylab, qui a des petites pépites quand même déjà sorties. Il a aimé, donc il a dit ok, je mets de l'argent sur la table. Les gars de Teenage ont suivi, ils ont mis de l'argent sur la table, et puis on a mis le reste, et on a coproduit ça à 300 exemplaires. Mais ça a vraiment été sous la dynamique de Piotr, et comment il nous a permis de nous voir, quoi, de nous voir à l'intérieur du truc, et de dire bon, vous faites du rock'n'roll, mais maintenant il faut que ça groove, quoi.
D'accord.
Donc voilà, un grand merci à lui aussi. Et on est reparti pour travailler avec lui et pour enregistrer le reste.
Ouais. D'accord. On va s'écouter un deuxième morceau, Constantly Wrong. Tu as quelque chose sur celui-là à nous dire ?
Non plus. Je donnerai pas l'influence. J'ai un copain qui l'a reconnu l'autre jour, là, le soir du Nouvel An, et il a dit, mais dis non, ça me fait penser à ça. Je dis, toi, t'es pas mauvais, toi. Je ne dirai rien.
D'accord, mais on va se l'écouter. On se retrouve juste après pour une dernière partie.
Real.
Eh, vous êtes dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais. Voilà, c'était donc un deuxième morceau de Pervitin, Constantly Wrong. Qu'est-ce que je voulais te demander? Tu peux m'en dire un peu plus sur, là, sur les quatre textes, s'il te plaît?
Sur les textes, disons que c'est un peu... la thématique, c'est un peu la mélancolie, la séparation, l'amour déchu... Mmh. Et comment on refait toujours les mêmes conneries avant de se rendre compte qu'il faut arrêter de les faire. Mais ouais, les textes sont assez sombres en règle générale. Les textes de Gège aussi. D'ailleurs, je me dis, putain, on est déprimant, on n'arrivera pas à être un peu fun, mais bon, faut s'accepter comme ça aussi. Mais oui, là ça se politise un peu sur les derniers textes. On parle un peu plus de thèmes universels. D'ailleurs, l'amour en est un aussi, mais voilà, c'est sur les amours déchus. Ouais.
D'accord.
À part ce sort de planète, le deuxième morceau de la FASA, qui est une petite histoire de SF rigolote, quoi. Voilà.
D'accord. Vous travaillez comment quand, je vais m'étouffer moi aussi. Quand vous travaillez sur un morceau, là, comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui amène majoritairement une idée ou...
Il y a tout, ça arrive comme ça, où en effet, je peux arriver, j'avais tendance moi à vouloir tout carouble, je fais mes démos à la maison, je leur envoie, écouter, et puis quand on commence à le jouer, non, il faut faire comme je l'ai joué, mais bon, le deuxième guitariste, c'est pas moi en double, donc il apporte ses choses à lui, et je me rends compte qu'il a raison, que ça prend d'autres directions, donc je les laisse s'exprimer maintenant, j'apprends un peu à me taire.
Ça a été compliqué au départ ?
Non, mais voilà, c'est ce côté de vouloir un peu tout diriger, mais voilà, après c'est les copains et je leur fais confiance. Et puis ils ont des super idées, les morceaux brillent beaucoup mieux comme ça. Ça arrive comme ça, soit tout fini, soit un riff, notamment Gège qui avait pas mal de riffs, mais il n'avait pas de mélodie de chant, donc voilà, j'ai posé les mélodies, il donne un texte, je trouve un texte. Où ça peut aussi partir d'un texte sur un vieux riff qu'on avait, on savait pas quoi en faire. Ou un bœuf comme ça, entre deux morceaux, on se met à partir sur un délire, et puis on dit, ah tiens, ça sonne, et puis ça donne un morceau aussi. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. C'est super libre, et c'est ça qui fait que c'est jubilatoire aussi, là. On a maintenant ce truc où on se dit, putain, si on pouvait être dans les années 70 et se louer un local pendant 6 mois, et jouer tous ensemble comme ça, voilà, entre guillemets, on mérite, quoi. On mérite de passer plus de temps ensemble parce que on aime écrire, quoi. Voilà.
D'accord. Tu peux m'évoquer le visuel du disque, savoir.
Alors le visuel, c'est une œuvre de Gège. Il fait pas mal d'images. Il transforme des trucs, il dessine des choses, etc. Donc c'est venu de lui. Et vu que j'avais pas vraiment d'idée de pochette et que j'aurais eu tendance à faire un truc plus dans les codes du genre et qui peuvent être assez ennuyeux de mon point de vue de voir un peu toujours les mêmes pochettes défiler ou 4 mecs, un tir, enfin voilà, des choses comme ça, ou des meufs, ou des pin-up, etc. etc. Et donc il est parti sur cette idée. Au début, j'étais un peu j'avais des doutes. Et puis je l'ai laissé faire, voilà, il avait carte blanche et je trouve que le produit fini est assez chouette, j'aime bien, ça tape à l'œil et puis voilà, on sait pas ce que c'est, quoi.
Ah oui, donc il n'y a pas de signification particulière.
Non, par contre, il n'y a pas de signification particulière, c'est
d'accord.
Chacun la sienne.
Ok, est-ce que qu'est-ce qui se profile pour vous, même si en ces temps compliqués, arriver à trouver des objectifs ou des envies, c'est un peu parfois difficile.
On va pas se plaindre, hein, c'est avant tout les acteurs des salles et puis tous les prestataires et tous les voilà tout le monde du travail qui tourne autour de ça, ça doit être quand même bien difficile pour eux. Après, on n'était pas dans un objectif de bien sûr de vivre de notre musique parce que ça va pas intéresser suffisamment de monde de toute façon, mais c'est bel et bien devenu une raison de vivre. Donc on n'a pas arrêté les répètes. On se fait violence pour se voir régulièrement et puis voilà, passer une après-midi ensemble, on peut boire un coup, discuter, échanger et puis voilà quoi, envoyer faire de la zik. Et voilà, même pendant le second confinement, quand on a vu que quand on a vu que les musiciens sous contrat avaient le droit de se déplacer, ben voilà, on s'est fait nos propres contrats et on s'est déplacé, quoi. Ils vont pas nous empêcher de jouer. Donc voilà, on se retrouve régulièrement tous les week-ends pour travailler. Le set s'allonge, on devrait pouvoir tenir une bonne heure sur scène, et puis on continue de se poser les bonnes questions, est-ce que ça vaut le coup ce morceau, etc. Et puis on a hâte de travailler ça avec Piotr de nouveau et avoir son regard sur les arrangements et la prod de tout ça, quoi.
D'accord. Ultime question, donc où peut-on se procurer le disque ?
Alors, il est donc dispo chez Bruno de Danger House, donc dans son magasin à Lyon. Il a sa distribution européenne, visiblement il y en a quelques copies qui sont parties. Et puis Internet, c'est les sites de vente de Danger House, donc sur eBay et sur le second que j'oublie, Discogs. Et puis chez Teenage Eight aussi, Teenage Eight Records, qui vendent ça en VPC sur leur site, et puis sur le Bandcamp de Pervitin, pervitinbox/bandcamp, on vend nos propres copies aussi. Et puis il y a la version numérique qui est dispo pour la modique somme de 2 euros, je crois, sur notre Bandcamp aussi. Voilà.
Ok, mais écoute, je m'en vais te remercier. On va se quitter sur un troisième et dernier morceau, Third Planet from the Sun. Voilà, comme ça. On va terminer en beauté.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi, Fred.
Eh bien, continuez bien. Salut
merci
les gars.
Merci à vous aussi. Surtout.
Merci.
Continuez à bosser. Et ciao.
Merci.
Yeah.
C'était donc un dernier morceau de Pervitin, juste avant celui qu'on vient d'écouter à l'instant, Third Planet from the Sun. Donc je vous invite à découvrir ce disque de Pervitin, superbe. Il est dispo donc sur internet, Bandcamp, c'est par là que je suis passé, mais donc vous pouvez trouver ailleurs certainement. Donc voilà, vous allez écouter et puis achetez-le, hein, c'est la meilleure des solutions pour faire vivre un groupe et son projet, surtout que là ça vaut le déplacement. Dans la foulée, on écoutait Barrel Kick, formation de Rennes. Sista, c'était le titre du morceau. Voilà, j'ai reçu ça comme The Laurie Strode Brothers qu'on avait écouté en introduction de cette émission Electric Troubles. On part du côté de l'Angleterre puis de l'Allemagne, à Berlin plus exactement. The Struggle dans un premier temps. Tension Rising, extrait d'un EP de 2021, et Cold Lizard, donc la formation allemande avec Past Remedy. C'est parti! Vous êtes dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais. We'll be right back. Cold Leather, à l'instant, les Allemands de Berlin. Une interview la semaine prochaine encore est prévue et ce sera, alors là c'est peut-être un peu difficile de le dire, parce qu'ils ont quand même enlevé des lettres, hein. On aurait pu dire Miss France, mais non, c'est MSS et Frevrens, donc sans le A, France sans le A. Il faudra que je leur demande comment ça se dit, bien sûr. Donc là, ce sera du tatapoum, hein, on peut le dire, parce que là, ça carbure sec. Et c'est beaucoup plus incisif, même si ce que nous avons écouté aujourd'hui avec Pervitin était pas mal aussi, mais c'est pas la même branche musicale, voilà. Beaucoup plus de tempête, on dira. On va s'écouter maintenant Glenn Robinson et Get Dead, donc des Américains pour les uns et des Américains pour les autres.
Anyway.
voilà, il est temps de se quitter dans Electric Troubles Radio Show. On va se balancer un bon petit triptyque avec Radon, donc formation de Gainesville. NoFX, je ne vous présente pas, et Shitty Life, les Italiens de Parme, voilà, trois bons morceaux, Roller Derby Girls, Stick in My Eye et On the Table. À la semaine prochaine, les amis, pour une nouvelle interview Electric Troubles Radio Show. Je vous rappelle que le fanzine Kavzik est toujours disponible, mais faut peut-être me prévenir avant parce que des lieux de distribution, ça devient un peu compliqué, on va dire. Mais je vais en remettre, je pense, au Vinyl Café Montois. Sinon, vous pouvez me le demander via Internet, donc le Facebook. Je pense que vous le connaissez par cœur, vu comment je vous fais chier avec. Allez, ciao, bye bye. Yeah.